gestion, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. La députée Brigitte Kafui Adjamagbo-Diosson, coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple DMP, soutenue par le Conseil des présidents, dénonce le retard criant constaté dans l'exécution des travaux de construction de voies publiques au Togo. La députée à l'Assemblée nationale déplore que les retards dans les travaux engendrent un ralentissement notable des activités économiques dans les zones concernées. Elle exhorte le gouvernement, le Parlement et la Cour des comptes à se saisir du dossier. La sortie alors de Madame Adjamagbo-Diosson fait suite à une visite qu'elle a effectuée le vendredi 28 février dernier sur certains chantiers des voiries à Lomé. Dans un laps de temps, la secrétaire générale de la CDPI avait visité certains chantiers, notamment dans la commune alors du Golfe 1, BAP Domé. Et comme bilan, la députée du Grand Lomé note des retards généralisés et des absences d'activité sur plusieurs chantiers. Certains affichent des niveaux d'avancement faibles malgré une consommation excessive des délais, alors que d'autres sont suspendus faute de financement. Je vais aborder le sujet dans cette émission avec mes confrères journalistes présents en studio avec moi. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la presse de ce lundi 10 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega était à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous choisir quand vous êtes à l'extérieur de notre pays à travers nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous capter sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, et Gosson Ketomanyan, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Nous rendons grâce à Dieu et nous saisissons cette occasion pour adresser nos fraternelles salutations aux auditeurs, auditrices, lecteur et lectrice fidèle de Liberté.
Merci.
Monsieur Pascal,
oui,
je n'en ai pas l'habitude, mais je veux faire un clin d'œil à une certaine jeunesse au quartier Balissimé.
Balissimé, c'est à quel niveau?
Au fin fond de CB. Grâce à ces jeunes, une voie très fréquentée est redevenue accessible suite à des pluies. Vous n'allez pas me dire qu'actuellement, vous me demandez s'il a plu ces derniers temps. Non. Depuis les dernières pluies, plus aucun véhicule ne pouvait emprunter cette voie-là qui mène du Carrefour au Bénin au quartier Mamissi. Une voie très large, mais du fait des pluies, la voie est coupée en deux. Mais grâce à ces jeunes, ils ont pu trouver des buses qu'ils ont placées et remblayées par-dessus. Mais contre ce travail, il demande à ce que tout passager ou tout usager de la route s'acquitte ou les aide, les soutienne d'une certaine manière. Je dois avouer qu'au début, je n'avais pas accepté, mais quand je m'étais arrêté pour comprendre le pourquoi, parce que Balissimé, c'est dans la commune Golf 7. Ça veut dire qu'il y a une mairie, mais qui n'a pas jugé utile de réparer cette voie-là pour lui redonner sa praticabilité. Il a fallu que ce soit des jeunes de ce quartier qui se mettent ensemble pour refaire en quelque sorte cette voie. Si on veut que ces jeunes arrêtent de percevoir quelque chose auprès des usagers, il serait temps que, comme tu viens de l'annoncer, certaines voies à Lomé connaissent des travaux urgents.
D'accord. On va en parler tout de suite. Gosson, merci. Je pense que le message est passé. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour aux aînés en studio.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est tout le plaisir pour moi d'être ici. À toi le merci.
Alain. D'accord, merci. Bien sûr, et ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Jacques Dzakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Profitez de l'occasion une fois encore pour saluer nos compatriotes, certainement ceux qui sont malades. Certains sont sur les lits d'hôpitaux actuellement et d'autres prêts à être poussés peut-être vers une salle d'opération. Et que la main de Dieu soit sur chacun et chacune. Ceux qui nous écoutent dans leurs bureaux, dans les taxis, dans leurs ateliers, je souhaite à chacun, à chacune, une bonne semaine et bon carême à nos amis musulmans et à nos frères catholiques. Et tenez bon, priez pour nous, priez pour le pays. Et l'essentiel est que quand on fait le jeûne, c'est toujours une très bonne chose. Et beaucoup de courage à nos amis musulmans, beaucoup de courage à nos amis catholiques. Et invitez Pascal les uns et les autres. Il y a un phénomène actuellement qui se développe dans notre société. Et c'est le phénomène des filles mères. C'est-à-dire que vous constatez nos sœurs qui ont des enfants, certains enfants qui ont souvent déjà le bac, d'autres enfants qui sont peut-être au CM2, cours primaire et autres. Mais ce que nous constatons, c'est que ces sœurs-là, finalement, au fil des années, n'arrivent pas à se marier. Et ça constitue vraiment des casse-têtes pour les parents, parce qu'avoir une fille qui est encore à la maison, qui cherche un homme, qui ne trouve pas, il faudrait quand même qu'on puisse réfléchir au niveau de la société, parce qu'il faut soutenir vraiment ces femmes-là. Ce n'est pas du tout facile, Pascal, de rester sous le toit de son papa, de sa maman, d'avoir un enfant et de ne pas trouver un mari. C'est souvent difficile. Et vous allez voir ce genre de femmes. Souvent, on se dit qu'elles sont un peu dures. Il faut reconnaître que ce n'est pas qu'elles sont dures, mais c'est ce qu'elles sont en train de traverser qui les rend un peu nerveuses. Et on constate qu'elles sont dures. Ce n'est pas ça. Donc, je crois qu'il faudrait que... Je crois qu'on a un ministère de la femme au Togo, non?
Oui, la promotion de la
promotion
femme.
De la femme, voilà. Donc, je crois que c'est des thèmes comme ça qu'il faut développer lors des manifestations, c'est-à-dire le 8 mars. Comment soutenir, aider ces filles mères à avoir effectivement des pensées un peu posées, comme on peut le dire, sur la tête des épaules, et voir comment discerner et avancer dans l'avenir. Sinon, c'est vraiment compliqué, Pascal, de voir effectivement ces filles mères qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver de mari. Ce n'est pas le lieu pour moi de demander au gouvernement de modifier le code de la famille pour inscrire la polygamie, c'est pas ce que j'ai dit, mais quand même, il faut quand même soutenir. Il ne faut pas que les gens interprètent mal mon idée. Je ne dis pas au gouvernement de modifier le code pour permettre aux Togolais, des gens comme des garçons, de prendre encore 4 femmes. C'est pas ce que j'ai dit. Merci Pascal.
Merci Jacques. Je sais que c'est une balle perdue que Gorson vient de recevoir. Et lui me mit sourire, ça se comprend aussi. Alors, on commence cette émission avec ce sujet, bien sûr, que j'évoquais déjà au début, alors dans mes mots introductifs, hein, c'est par rapport à cette sortie alors de la députée Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson. Et c'est vrai, la députée, le vendredi 28 février dernier, la députée a visité certains chantiers qui sont restés inachevés. Et comme bilan, la députée note alors des retards généralisés et des absences d'activité sur plusieurs chantiers. Et selon elle, certains affichent des niveaux d'avancement faibles malgré une consommation excessive alors des délais, alors que d'autres sont suspendus faute de financement. Gonson, le journal Liberté, vous êtes revenu sur le sujet ce matin et vous écrivez bien sûr à la une de votre journal Liberté, aménagement et assainissement des rues à Lomé, retard, abandon de chantier. Madame Adiamagbo Johnson interpelle le gouvernement. Et là, quand la députée interpelle le gouvernement, elle est bien sûr dans son rôle, Gosson.
Plus que dans son rôle, à la différence qu'elle l'autre a le droit à la parole. Mais alors, il suffit de prendre le temps de sillonner ces chantiers ouverts dans certains quartiers, dont Akore, Sewa, Bé et autres, pour réaliser qu'elle n'a que trop raison. La dernière fois, j'allais rendre visite à un monsieur qui nous suivait et qui a cherché à me contacter. Il est à Verbe, pharmacie Cristal. Mais Pascal, à un certain niveau, je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. À supposer, je vais encore jeter le pied dans le plat, à supposer que ces voies ouvertes passent devant la devanture du président de l'Assemblée nationale, du premier ministre, ou même du premier magistrat, Fogny Assimbé. Pensez-vous que ces retards seront tolérés, Pascal? Il faut à un certain moment que le citoyen comprennent qu'il a le droit de s'indigner. Pas de se révolter, mais de s'indigner. Parce que quand toi, par exemple, que Dame Nature a favorisé et tu as un véhicule, peut-être dans un quartier où le vol est le sport le mieux partagé du quartier, mais ça veut dire que si jamais tu dois oublier ton véhicule dehors, c'est possible qu'au lendemain, certaines parties disparaissent. Donc, chaque fois, tu dois faire rentrer le véhicule chez toi. Mais voilà, l'autorité a ouvert un chantier qui passe devant chez toi et tu n'es pas le seul. C'est sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Mais alors, tu n'oses pas t'exprimer parce que tu as peur. Avoir peur de dire que ça ne va pas. Quand même, il faut qu'on apprenne à dépasser ça. Parce que manquer de respect à l'autorité, ça peut être passible de poursuite. Mais dire la vérité, on doit pouvoir le dire. Là, Mme Adiamagbo Johnson ne parle que des voies ou des chantiers ouverts. Tout à l'heure, il me vient à l'idée que si l'INSED peut initier un recensement des voies qui devraient être bitumées, du moins aménagées, par rapport à ce qui est fait à ce jour, beaucoup de Togolais tomberaient à la renverse. Parce que je ne suis pas sûr que nous sommes même à 25% de bitumage des voies qui devraient l'être. Comment est-ce que ça s'explique? Mais dans le même temps, nous sommes prêts à lancer des chantiers qui n'en valent pas la peine. Je ne veux pas parler du chantier des sénatoriales. Mais Madame Adiamagbo, une fois encore, n'a que trop raison. Elle est très minoritaire à l'Assemblée, mais elle a eu ce courage de sillonner. On peut pas le lui interdire dans certains quartiers de constater certains états des travaux. Il reste aux populations de donner de la voix pour que, si c'est un oubli, que les gens se réveillent.
D'accord. Oui, je disais, c'est vrai que dans le bilan présenté par Madame Brigitte Kafuya Adiamagbo Johnson, on note que certains chantiers affichent des niveaux d'avancement faibles et malgré une consommation excessive alors des délais, alors que d'autres sont suspendus faute de financement. Là, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Quand on nous dit que les travaux sont suspendus faute de financement, tandis que déjà, avant de lancer même d'ailleurs les travaux, c'est parce que les financements ont été débloqués.
Mais c'est ce qui se passe avec ces chantiers, et ça fait des mois, sinon je dirais des années qu'on en parle. C'est assez ahurissant, et à l'image même du contexte togolais, parce que si vous voulez comprendre, des fois vous aurez des migraines, et après vous laissez tomber, vous laissez tomber et vous ne voulez plus comprendre. Et c'est justement la situation dans laquelle nous nous trouvons, que les autorités togolaises aient pu décider de dire « Ok, pendant très longtemps, on a un quartier un peu délaissé, sinistré, on peut dire, et qu'on veut un peu regarder vers ce quartier-là en initiant des travaux, et qu'on initie des travaux de grande envergure, comme on a pu les qualifier. » Et que oui, quelques mois après avoir posé donc quelques pierres, quelques buses ici et là, et puis bon, que les machines disparaissent des chantiers et qu'il n'y ait plus de personnel sur les chantiers, et on en parle depuis cette affaire-là, ça fait déjà plus de 3 ans que des gens en parlent, et que il n'y ait pas une réponse officielle, rien d'officiel à ce sujet-là. C'est quand même dommage, parce que là, ma foi, il y a quelques jours, il y avait eu une rencontre sur la prévention des catastrophes, des inondations à la primature, ma foi. Et c'est des sujets comme ça, normalement, qui devraient être abordés, parce que ces chantiers-là, moi, j'avais un ami qui a perdu sa maman. Les funérailles devraient avoir lieu d'abord au fin fond de Gbenyedi. Mais pour y aller, ce n'était même pas possible. Il fallait garer quelque part, prendre Zemidjan peut-être, ou si tu veux marcher, tu marches sur plusieurs minutes avant de pouvoir accéder au lieu dans plusieurs, si vous avez de la famille un peu partout là-bas dans la zone, vous comprendrez de quoi on parle ici. Donc du coup, si les pluies commencent maintenant, ça va être encore terrible, avec des buses et les caniveaux ouverts, qui vont recueillir assez d'eau, et vous imaginez les maladies que ça peut donner après, avec des mouches, des moustiques et tout ce qui peut s'en suivre. Et on ne comprend pas pourquoi depuis tout ce temps, les autorités ne réagissent pas ou n'arrivent pas à trouver une solution pour justement permettre à ce que ces travaux-là reprennent. Si les entreprises auxquelles on avait confié ces travaux ont été défaillantes ou n'ont pas pu, on peut peut-être confier ces travaux à d'autres entreprises suite au mécanisme que connaît bien Godson de marché public, pour que ces d'autres entreprises reprennent. Et par contre, ces entreprises auxquelles les travaux avaient été confiés et qui ont dépensé l'essentiel du budget des travaux sans pouvoir accomplir les travaux puissent être poursuivies devant les juridictions, si elles ont à rembourser, qu'elles puissent rembourser. Si elles ne remboursent pas, bon, qu'on trouve d'autres mécanismes de toute façon pour qu'on ait l'argent, le budget dédié à la réalisation de ces travaux-là, pour qu'on ait la paix aux populations de cette zone. Parce que depuis que ces travaux ont commencé, plusieurs ont perdu leur activité génératrice de revenus, des gens ont des difficultés pour rentrer chez eux, combien de personnes qui ont connu des blessures suite aux difficultés d'accès à la zone et à leur maison. Des histoires même qu'on ne peut pas évoquer ici. Donc du coup, c'est très compliqué, des dommages. Gosson parlait de cela. Si tu habitais dans cette zone avant le début des travaux et que tu as la malchance d'avoir une voiture, depuis que ces travaux ont commencé, tu ne peux plus faire rentrer ta voiture à la maison. Et les dommages que cela pourrait causé depuis tout ce temps-là, tout le monde peut imaginer. Donc, ma foi, c'est complexe. C'est complexe à l'image de notre pays, de notre contexte, mais c'est quand même pas compréhensible de ce que les autorités aient voulu faire quelque chose de bien et que cela s'arrête depuis des années et que personne ne réagisse officiellement et que tout le temps, il y a des interpellations sur le sujet, des médias en parlent, les gens en parlent, dans les associations en parlent. Maintenant qu'une députée en parle, bon, espérons que dans ce contexte-là, on va dire qu'elle fait de la politique et tout ça. Donc, espérons que dans un contexte peut-être politique, on veuille peut-être donner une réponse à cette interpellation-là. D'accord. Pour qu'on voit clair dans le dossier, mais pour que également nos parents, nos amis, les Togolais qui vivent dans la zone là-bas, puissent également avoir un soulagement de ce que les travaux sont repris et terminés pour que la paix revienne, voilà, là-bas.
Et Jacques, c'est vrai que quand vous prenez le quotidien même d'ailleurs de ces les riverains hein, de ces chantiers, quand vous allez à Gbenyedi, vous allez à il y a pas de Souza, des quartiers bien sûr alors de la commune de du Golfe 1, vous verrez quand même que des gens ont des difficultés même à accéder à leur maison, mais finalement ces chantiers qui sont restés inachevés, c'est-à-dire abandonnés, mais finalement il faut quand même qu'on donne des explications aux populations.
Vous savez, Pascal, ces chantiers ouverts dans ces communes s'apparentent à un jeune homme qui allait faire une dot sur les prêts. C'est-à-dire que on lui a donné la liste pour faire la dot. Il voit Gosson, il prend deux pagnes. Il voit Didier, il prête deux pagnes. Il voit quelqu'un, il prend le whisky, il rassemble tout. Il va y faire la dot. Après, il dit effectivement à la fille, après la dot, s'il te plaît, il faut dire à tes parents de remettre ce que j'ai donné parce que j'ai prêté. Comprenez? Elle dit qu'on vous fait miroiter les choses. Et à la fin, on dit non, ça ne marche pas. Et quand c'est comme ça, vous voyez que ça fait quand même mal, Pascal. Ça fait mal que un papa ou bien une maman à qui on vient doter sa fille et qu'à la fin on dit encore que tout ce qu'on a donné, il faut ramener ça parce que le monsieur a prêté tout ça là chez ses amis avant de faire la dot. Finalement, si le papa et la maman là ne savent pas faire, c'est une crise. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau de ces chantiers. C'est-à-dire que on a fait miroiter aux gens du bon, du beau, ce qui peut aider, mais à la fin, on constate que finalement c'est un calvaire pour ces gens. Comme vous l'avez si bien dit, quand vous prenez par exemple le quartier Ebe, vous allez à Gbenji, vous allez à Kolevisime, vous allez à Blogame, vous allez à Koresewa, tout ça. C'est-à-dire que quand vous passez ces quartiers, pour ceux qui, parce que nous on a fait ce quartier, je maîtrise bien le quartier de Bay jusqu'à Arigo et tout ça, mais vous ne pouvez pas. Si vous avez des amis dans ces localités-là et vous voulez les visiter, Pascal, comme Didier l'a dit, si vous êtes en voiture, si vous ne savez pas faire, vous allez vous perdre. Et vous êtes obligé encore d'appeler votre ami alors que vous êtes tout juste devant sa porte. Vous allez vous perdre. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui que ce que Madame Adjamogbo Johnson a dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faudrait que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. C'est-à-dire que on ne peut pas ouvrir des choses et ne pas les refermer. S'il y a par exemple défaillance au niveau des sociétés, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut reformuler un appel d'offres à d'autres sociétés pour pouvoir faire le travail. Parce qu'entre-temps, vous avez vu Pascal, on avait laissé entre-temps les tracteurs dans ces quartiers. Mais au finish, au jour le jour, les tracteurs et les camions ont commencé par disparaître. Et c'est là que la population a compris que, attention, et ce qui va venir demain sera plus dangereux et plus compliqué pour nous. Comme il a dit, vous savez, moi j'ai un ami qui a loué dans le quartier, qui avait sa voiture. Comme il ne pouvait plus mettre le véhicule dans le garage, il était obligé de laisser le véhicule dehors. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est ressorti, Pascal, je vous dis, vous savez ce qui s'est passé?
Non, qu'est-ce qui s'est passé?
Les gens ont tout enlevé. Ils ont pris les briques même, pour les pneus là. Ils ont tout sorti. Et finalement, c'est les briques qui servaient le support de sa voiture.
Ah bon?
Oui, mais c'est comme ça. Ils ont tout enlevé. Donc, le monsieur était obligé de quitter le quartier. Oui, donc c'est pour vous dire que c'est un peu compliqué. Donc, ce que Mme Adjamogbo Johnson est en train de dire, ce n'est pas de la politique. Mais ça, c'est une réalité. C'est des faits. Pascal, vous, monsieur, vous allez, dans ces quartiers que je viens de citer, vous allez vivre la réalité. C'est un peu un mensonge, et ça, c'est pas parce que Adjamogbo Johnson est de la CDPA ou bien ceci, mais c'est des faits réels, c'est des faits de société qu'il faut quand même régler pour aider effectivement nos populations.
D'accord, c'est des faits de société qu'il faut régler pour aider les populations. Oui, Gosson?
Oui, pour être plus franc, hein, je dirais que, au vu de ces chantiers,
j'accuse le gouvernement de laxisme. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne colle qu'on tisse la nouvelle. Lomé Vogan en foin, ça doit vous rappeler quelque chose.
Tout à fait.
Quand dans sur ce chantier, on a décaissé ce qu'il faut, que l'entreprise a été médiocre, mais que le premier responsable du ministère des Travaux publics, en la personne de Nissa Onyonfam, se permette de venir devant les représentants du peuple, ouvrir la bouche et déclarer que l'entreprise a utilisé les fonds pour s'acheter du matériel. Quel sort a été réservé et à ce ministre et à l'entreprise? Nada. Rien. Donc si, par le passé, on a pu gérer ce dossier de la sorte, mais ça va donner ça doit faire des émules. Et aujourd'hui, on en voit qu'on décaisse, mais que les fonds soient consommés, mais que les travaux soient à l'arrêt. Mais, du moment que dans notre pays, d'ailleurs, on l'a même fait dans la Constitution, en l'exipant de l'implémentation de la haute cour de justice, du moment que la culture de l'impunité sera érigée en règle de gouvernance, ne vous étonnez pas que certaines incongruités nous soient jetées à la figure. Je parle, tu dois sentir que mon ton veut monter parce que je suis indigné.
D'accord, je comprends que c'est un indigné qui parle.
Mais Pascal, vous savez,
oui,
moi, ce que je ne comprends pas, est-ce que dans le lancement, par exemple, de ces travaux, dans ces communes-là, est-ce que les maires là étaient associés? Il faut se poser la question.
Et justement.
Voilà, s'ils sont associés, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Et puis, ces travaux-là sont à l'arrêt. Est-ce que c'est le financement? Est-ce que c'est les entreprises? Il faudrait quand même que, au moins, ces mairies-là puissent communiquer pour dire ce qui s'est réellement passé. Vous vous rappelez qu'entre-temps, même dans certains quartiers, il y avait des enfants qui sont tombés dans ces caniveaux. Moi, je crois que si, aujourd'hui, par exemple, on parle du ministère des Travaux publics, si le ministère des Travaux publics ne peut pas communiquer, au moins que les maires que nous avons dans ces communes ou arrondissements puissent quand même dire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas une affaire de 2 mois, 6 mois. Mais ça a pris assez de temps. C'est un problème, mais qu'on communique pour dire aux populations, entre-temps, nous avons promis le faire, mais nous avons peut-être un déficit budgétaire par rapport effectivement à ces chantiers, et demander, ne serait-ce qu'à ces entreprises-là, de remblayer, ne serait-ce que les trous qu'ils ont creusés, et après, quand on aura les moyens, on puisse faire les travaux. Parce qu'on ne peut pas, laisser, Pascal, ces trous-là un peu partout comme ça dans les cas. Et puis c'est vilain même à voir. C'est trop vilain à voir au sein de ces quartiers.
D'accord. Oui, on va quitter le sujet. On s'intéresse maintenant à la journée internationale des droits de la femme. Et c'est vrai que Madame Brigitte Djamango Johnson est une femme et députée, bien sûr. Et maintenant, on parle alors de cette journée. La journée, c'était le 8 mars dernier. Et le samedi dernier, bien sûr, il y a des activités qui ont été organisées, des activités dans le pays, qui ont été organisées surtout par des associations de femmes et tout. Et est-ce que vous avez aussi l'impression que déjà, pour ce qui concerne la promotion de la femme, le droit de la femme, le Togo est en train de faire des pas de géant?
Bon, là, il faut peut-être disséquer le sujet et l'apprécier sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, parce que la promotion de la femme, la promotion des droits de la femme, sur certains plans, vous allez avoir l'impression de ce que ça marche, et sur d'autres plans, pas du tout. Par exemple, si nous prenons les textes, il y a beaucoup d'améliorations, on dirait plutôt peut-être des avancées dans le pays par rapport à un certain nombre de tests et qui doivent favoriser les femmes, les jeunes filles, notamment en matière de l'éducation par exemple. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prises dernièrement pour promouvoir l'éducation de la jeune fille, les protéger, notamment les lois contre le harcèlement et tout ça. sur un plan politique, on peut dire aujourd'hui que ok, les femmes occupent des positions dans la société. On a une femme premier ministre, on a des femmes à des voilà à des positions politiques très élevées où elles devraient naturellement avoir leur voix dans la prise des décisions qui permettent de diriger le pays. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. De toute façon, on voit au moins qu'on a des femmes voilà, à des postes élevés et tout ça. Je ne sais pas si elles arrivent toujours à peser, à initier et à influencer même la gestion du pays, parce que vous avez pu entendre ces plaintes des Togolais, nous tous, nous l'entendons, et des, même des fois, vos auditeurs vous appellent ici, vous le disent, les femmes dirigent le pays, mais les choses ne marchent pas. Donc, voilà, je dis, ce sujet-là, il faut le prendre sur plusieurs plans pour dire, sur tel plan, ça marche, sur tel plan, ça ne marche pas, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les efforts fournis dans plusieurs domaines puissent être conjugués ensemble pour que cette affaire de promotion de la femme puisse naturellement être une réalité ici chez nous et que ça ne se traduise pas uniquement que par on dit qu'on a nommé des femmes, on en a nommé un certain nombre également au Sénat, paraît-il, sur une
oui,
parité.
C'est une parité, 10-10.
Voilà, donc que ça ne soit pas seulement sur, voilà, sur des affaires de nomination, mais que d'un point de vue dans la société, dans le poids même sur un certain nombre de décisions, qu'on puisse sentir que, ok, il y a eu des femmes ici, il y a eu des femmes qui ont eu à travailler, qui ont eu à plaider pour que telle et telle décision prise puisse naturellement permettre un bon fonctionnement de la société togolaise sur plusieurs plans. Par exemple, je prends la vie chère. Les femmes maîtrisent cette affaire de vie chère plus que nous. Elles sont celles qui vont souvent au marché, qui maîtrisent l'économie de tous les jours. Mais bon, des fois, quand on parle de la lutte contre la vie chère, tout le monde peut dire, on sent moins les femmes à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que je dis que au moins, d'un point de vue politique aujourd'hui, on voit une volonté politique affichée de pouvoir promouvoir des femmes avec leur nomination et c'est à saluer. Mais derrière, quel est le mécanisme qui est mis en place pour que les femmes, au-delà des nominations, méritent un certain nombre de choses sans forcément que ça soit des nominations d'un point de vue purement politique et des gens ajouteront politiciennes, mais que le mécanisme que nous mettons en place dès le bas âge, dès le début, permette justement à ce que, arrivé au sommet, des femmes puissent être capables de pouvoir d'elles-mêmes se positionner par rapport à un certain nombre de choses et aspirer à un certain nombre de positions, être candidate à des élections pour avoir des postes politiques et tout ça, que ça ne soit pas forcément des nominations qui, des fois, deviennent sujet polémique. De
D'accord. Toute façon, dans Robert Gosson, est-ce que vous avez, vous, l'impression que, déjà, quand on parle de la promotion de la femme, le Togo fait vraiment des pas? Et c'est vrai, tout récemment, il y a... le Togo inspire d'autres pays, bien sûr, et finalement, il y a même des pays tels que la RDC qui ont aujourd'hui comme femme premier ministre. Mais est-ce que c'est des pas, des pas que le Togo fait?
Je ne vois pas en quoi le Togo peut inspirer sur ce plan. En matière de nomination, laisse-moi te dire, franchement, Pascal, que c'est la face visible de l'iceberg. Tout à l'heure, Jacques parlait des jeunes filles d'un certain âge qui deviennent très tôt mères. La plupart du temps, quand elles grandissent, les seules opportunités qui s'offrent à elles, si ce n'est pas la vente, c'est les services dans les bars. Quand tu prends de Lomé à Djarkpanga, Saint-Cassé, je ne sais pas combien de bars on peut compter sur toute l'étendue du territoire national. Et dans les bars, ce sont les jeunes filles qui servent. Mais à ces jeunes filles-là, combien leur est payé à la fin du mois? On parle de 52 500 francs comme SMIG au Togo. Combien parmi ces jeunes filles gagnent 50 000? Ça, c'est une des luttes que doit mener l'autorité avant de parler de nomination, de promotion de la femme. L'autre pan est plus triste, mais je ne cesse jamais d'y penser. Nos frères d'armes qui défendent le pays, mais qui parfois tombent sous les balles, que deviennent leurs femmes? Pascal, que deviennent-elles? Leur mari tombe pour défendre le drapeau. Je ne serai pas surpris qu'un jour, ou je serai même très honoré qu'un jour, on dédie le 8 mars aux femmes de nos soldats tombés sur le champ de bataille. Je serai fier. Je n'en connais pas nécessairement, mais ce sont aussi des citoyens togolais. Tout comme je viens de le dire tout à l'heure, toutes les femmes que l'INSET, je l'interpelle une fois encore, fasse le recensement du nombre de bars au Togo. Dans combien de bars est-ce que vous verrez les garçons servir? Il n'y en a pratiquement pas. Mais à toutes ces femmes-là, il faut qu'on jette un regard compatissant, bienveillant, patriotique, pour ensuite parler de promotion de la femme.
D'accord. Oui, Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne la promotion de la femme, il faut plutôt aller à la base et ne plus s'intéresser tellement à ces postes politiques qu'on confie plutôt alors aux femmes?
Bon, ne pas confier les postes politiques aux femmes, ça c'est trop dit. Il faut quand même leur confier les postes politiques. Parce que quand nous voyons un peu aujourd'hui ces femmes que nous avons au niveau des institutions, à la tête des ministères, il faut reconnaître que quand même elles se battent, quoi qu'on dise, Pascal. Elles se battent à leur manière. Mais comme tu l'as si bien dit, vous savez, quand on parle de cette fête du 8 mars, Pascal, il faut faire un saut pour aller vers les villages. C'est là que vous allez découvrir effectivement ce que c'est qu'une femme et ses droits. Vous voyez des femmes, par exemple, Pascal, qui parcourent, par exemple, 15 kilomètres pour avoir de l'eau. Vous voyez des femmes parcourir 20 kilomètres avec les fagots de bois pour revenir à la maison, préparer pour les enfants, chauffer l'eau et autres. Quand vous voyez ces femmes, vous vous posez des questions. Un jour, j'étais allé vers le nord, et ça coïncide avec le 8 mars. Je me suis arrêté. C'était le jour du marché. Et le jour de ce marché, vous allez voir que la plupart des femmes qui venaient dans ce marché, vous voyez la femme porter un bébé au dos, sur son vélo, et sur le vélo, là, vous voyez les fagots de bois. Elle vient au marché pour pouvoir vendre. Vous comprenez? Pour supporter effectivement ses enfants. Et pour ceux qui connaissent un peu la situation sécuritaire chez nous, savent que ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas aisé pour ces femmes. Parce que la plupart des hommes fuient et c'est les femmes-là qui sont là. Elles sont obligées, Pascal, de pouvoir se battre, d'abord pour nourrir les enfants que ces messieurs-là ont laissés, et également la scolarisation, effectivement, de ces enfants. Et autre aspect, comment faire pour trouver de l'eau? Donc, je crois que si le 8 mars pouvait effectivement servir, par exemple, à tourner un regard vers ces femmes pour pouvoir effectivement aider ces femmes, ne serait-ce que Pascal, moi je le dis tout le temps, ne serait-ce que avoir les besoins primaires, basiques, c'est-à-dire d'abord l'eau. On ne peut pas parler d'électricité, Pascal. Parlons d'abord de l'eau. Si ces femmes-là ont de l'eau, Pascal, je vous dis, pour elles, ça serait effectivement un paradis. Je ne voulais pas, Pascal, rentrer tôt dans les détails. Sinon, vous risquez de verser les larmes. Je vous dis que moi, je tenais, c'est-à-dire qu'une bouteille d'eau de 5 centilitres, non, je crois, non, de voltique.
Oui, 50.
Voilà. 50 ou bien 50. Voilà. Et quand je tenais ça, et une dame m'a posé la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je lui ai dit non, que c'est l'eau. Elle me dit, mais j'ai trouvé cette eau-là où, dans cette localité, et que cette eau-là puisse se trouver dans cette bouteille si jolie comme ça. J'ai dit non, madame, je l'ai achetée et je suis venu. Et j'ai dit, bon, moi, je vais te donner ça. Vous comprenez? Et elle me dit, mais comment on ouvre ça? Elle avait déjà sorti son couteau pour percer. Et c'est là que je lui ai dit, non, il faut ouvrir par le haut. Vous voyez, donc, c'est des choses que les gens n'ont jamais vues. Elles n'ont jamais vu ça. Elles ne savent pas ce que c'est. Donc, quand elles voient ce genre de choses-là, c'est un luxe pour elles.
Vous voyez, l'eau est Pascal. Elle n'a pas pu comprendre pas que pu. C'est de l'eau.
C'est de l'eau, voilà. Donc, vous voyez, Pascal. Donc, je crois que si on peut tourner effectivement les regards, c'est-à-dire les femmes qui ont quand même les postes décisionnels, qui peuvent quand même aider ces femmes-là, il faut quand même le faire. Parce qu'aujourd'hui, Pascal, quand vous amenez, par exemple, vous prenez Jama Cocktail, vous prenez, par exemple, Malta, vous offrez à ces femmes, elles vous posent des questions. Comment on ouvre? Comment on ouvre ça? C'est compliqué.
C'est du luxe chez vous.
C'est pourquoi je dis, il faut souvent aller vers ces femmes, quand on parle du 8 mars. Aller vers ces femmes, essayer de leur parler. Quels sont leurs besoins? Essayer de satisfaire à ses besoins.
Et surtout, il est, ma foi, nécessaire de travailler à ce que le côté festif de cette date.
C'est une journée, ce n'est pas une célébration.
En réalité, c'est ce que toi et moi on comprend, que c'est une journée où on devrait normalement poser des doléances, faire des réflexions pour faire évoluer la condition de la femme, promouvoir les droits des femmes et tout. Mais on a tendance à transformer cette journée en une fête, et c'est ce que nous observons beaucoup plus.
Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi des femmes elles-mêmes? Parce que déjà pour beaucoup de femmes, dans leur compréhension, c'est que c'est une fête, c'est une célébration.
Oui, ben, si c'est ça, c'est dommage. Si c'est, on fait croire aux femmes que le 8 mars, c'est fêter quoi finalement? Fêter la femme?
Mais bon, finalement, si c'est ce qui est dit, c'est-à-dire on fête la femme.
Ben, si c'est ça, c'est bien dommage. Mmh. Ça rentre encore dans ce que nous combattons, dans ce qu'on combat avec le concept même de cette date. Parce que si on veut continuer à fêter le 8 mars, la femme, ma foi, on continue de chosifier la femme, on continue de la transformer en quelque chose qu'on peut célébrer. Alors que c'est ce que, justement, on veut éviter en disant qu'on veut promouvoir les droits de la femme. En fait, moi, ma foi, c'est ce que je disais dès le départ. Quels sont les mécanismes que nous mettons en place aujourd'hui qui permettront que dans 10 ans, dans 15 ans, nous puissions avoir des femmes togolaises capables de tenir l'économie, de tenir la politique, si vous voulez, de tenir tous les domaines parce qu'elles auraient mérité, parce qu'elles auraient travailler de toute leur vie, de leur parcours, mériter d'être là où elles seraient arrivées et pour qu'il y ait moins de polémiques et tout ça. Donc moi, c'est la question que nous posons. Et ça, ce n'est pas que le 8 mars qu'on doit faire. Les bases, ce n'est pas seulement le 8 mars qu'on doit faire. Ça peut être une journée indicative où on fait des réflexions et tout. Mais qu'on enlève clairement de la tête de nos sœurs, de nos mamans, de nos femmes, de nos filles, que le 8 mars, c'est une journée où on fait la fête, où on porte des pagnes, où on prend des boissons, comme on en a vu le samedi dernier. Et c'est surtout que c'était tombé sur un samedi aussi. Fallait voir tout ce que ça donnait partout à Lomé ici. Fallait réellement voir. Et au point où hier, je m'amusais à taquiner un peu ma femme pour dire, ben, votre affaire là, c'était fini le samedi. Vous voyez.
Oui, mais Gosson, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. C'est vrai, vous disiez tout de suite, quand on parlait de la femme, ou on parlait des femmes, vous êtes intéressé plus aux femmes des forces de l'ordre qui tombent souvent sur le champ de bataille, surtout qui sont dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Oui, parlons-en. C'est vrai, déjà tout récemment, il y a l'Assemblée nationale qui a prolongé l'état d'urgence sécuritaire dans le nord du pays, dans les savanes bien sûr. Aujourd'hui, puisque l'Assemblée nationale, c'était surtout un projet de loi bien sûr à l'ordre du gouvernement, et l'Assemblée nationale n'a que entériné même d'ailleurs ce projet de loi. Aujourd'hui, il y a toujours nécessité quand même de continuer ce combat, Gosson.
Bon,
vous allez, je vais peut-être surprendre. Autant nous sommes regardants et donc critiques envers la gouvernance, autant il y a des sujets sur lesquels nous convenons que ça, voilà, l'acte posé par le gouvernement est bien. Ce n'est pas parce que on n'a jamais tenu les armes, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais entendu le staccato des Kalachnikovs qu'il faut banaliser cette menace-là. Non. Et si aujourd'hui, on veut maintenir l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, ça doit être pour de bonnes raisons et suite à des rapports. Dieu merci, actuellement, on semble observer une accalmie. Je ne veux pas parler d'accalmie en réalité. Peut-être que le dispositif actuel permet de tenir au loin, de tenir en respect ceux qui viennent troubler la paix. Ce serait de bonnes guerres. Mais prorogation de l'état d'urgence, si c'est nécessaire, il faut le faire. Parce que autrement, quand la voie sera ouverte, quand cet état d'urgence sera levé, et ce serait à la tombée de la nuit que on va encore constater ce genre de choses parce qu'on aura relâché la vigilance, je serai aux avant-gardes pour tirer à boulet rouge sur l'autorité aussi.
D'accord. Voilà. Jacques, aujourd'hui, vous connaissez bien les savanes puisque vous êtes natif alors de là. Alors, aujourd'hui, la menace est encore réelle et il faut continuer cet état d'urgence puisque c'est ce que le gouvernement a introduit comme projet de loi à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale qui l'a adopté.
Vous savez, Pascal, comme vous l'avez si bien dit, je suis mieux placé pour vous parler un peu de ce qui se passe chez nous. Et sincèrement, je voulais profiter de l'occasion pour remercier nos autorités et surtout nos FDS qui sont dans cette localité. Pascal, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et il n'est pas souvent permis de les rencontrer si facilement comme ça et échanger. Et il faut passer par, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, mais ils sont en train de faire vraiment un travail extraordinaire et louable. Et dire également un sincère merci au président de la République, M. Forigna Singbe, par rapport à une stratégie actuelle que je ne peux pas dévoiler. Et je vois que vraiment cette stratégie porte effectivement ses fruits. Depuis un certain temps, personnellement, moi, je soutenais cette stratégie. D'aucuns ne comprenaient pas, mais finalement, je vois que finalement, cette stratégie-là a été mise en branle sur le terrain et vraiment, ça porte les fruits. Et sincèrement, merci au gouvernement et je voudrais dire à nos compatriotes, peut-être que certains ne comprennent pas pourquoi. Et tout le temps, le gouvernement demande de proroger l'état d'urgence dans notre au niveau de la localité.
Est-ce que c'est une quatrième fois
hein? Oui, c'est ce que j'ai dit, Pascal. C'est pas facile parce que chez nous, il est difficile aujourd'hui d'organiser même les cérémonies funéraires. C'est un peu compliqué. Vous rassembler et fêter comme ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, c'est un peu compliqué.
C'est tout comme au temps de Covid.
Voilà, c'est un peu compliqué. Et il faudrait que les gens comprennent, c'est pas une dictature qu'on est en train d'instaurer, parce que la dernière fois, le gouverneur de la localité, M. Afo Achadidji, a rencontré les responsables au niveau de la localité, les imams, les pasteurs, les prêtres et autres, pour pouvoir leur sensibiliser. Mais comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Parce que, Pascal, c'est un ennemi invisible que vous êtes en train de combattre. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Vous comprenez? À moindre chose, si vous n'êtes pas vigilant, l'ennemi risque de vous avaler. Donc, il faut être aux aguets. Donc, par rapport à nos FDS qui sont dans cette localité, Pascal, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment facile. C'est pas facile, mais vous savez, par la grâce de Dieu, à l'aide effectivement des uns des autres, ils sont en train de faire vraiment un travail extraordinaire.
D'accord. Didier, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons toujours demandé sur le sujet, on a toujours demandé quand même qu'il y ait plus d'implication des populations, surtout les populations qui sont justement dans ces localités à cette lutte. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'elles sont vraiment impliquées?
Non, mais c'est très compliqué à dire. Dire non, c'est un peu comme accuser les autorités. Dire oui, c'est un peu comme prendre le parti des autorités contre ce que ressentent nos frères et sœurs de là-bas. Mais ce que nous allons dire, c'est quel que soit ce qui s'est fait par le passé ou ce qui se fait actuellement, la meilleure stratégie, au-delà du militaire, du tout militaire qu'on a et des dispositifs qu'on a là-bas, c'est de continuer à associer les populations de là-bas à la lutte. Et les associer permettrait justement à ce que le renseignement soit renforcé en matière de lutte contre justement ce phénomène de terrorisme. Et tenir à l'écart les populations sera très risquant et dommageable pour nous dans notre stratégie de lutte, justement. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui protéger les gens sans forcément les associer eux-mêmes à la lutte contre ce qui se passe là-bas. La situation sociale dans cette partie du Togo, on sait déjà ce que c'est. Et les gens qui habitent dans cette partie de notre pays sont ceux qui connaissent mieux la configuration de la zone, la façon de vivre de la zone, la situation sociale, tout ce qui se passe. C'est eux, ils peuvent détecter rapidement des étrangers, des gens qui s'infiltrent et tout. Et donc, il faut justement travailler et qu'on continue de plaider pour une symbiose entre nos FDS et les populations locales, justement pour que cette entente puisse permettre une coproduction de la sécurité dans cette région-là. On sait qu'on avait eu quelques difficultés de par le passé dans cette lutte-là parce qu'il n'y avait pas eu cette symbiose-là qu'on attendait. Prions que depuis on connaît une accalmie depuis quelques mois, prions que cette accalmie continue et que la collaboration entre les deux parties continue. Et également, au-delà de la collaboration entre les FDS et les populations locales, qu'au niveau des FDS même, qu'on puisse véritablement équiper nos éléments naturellement en moyens leur permettant de pouvoir répondre à l'ennemi quand il le faut, tenir l'ennemi en respect, comme le disait tantôt Godson, et justement qu'on évite justement des défaillances de commandement et tout ce qu'on a pu constater. Et également des retards à l'exécution d'un certain nombre de décisions au point où le chef de l'État hausse un peu la voix pour donner des ultimatums, des délais à respecter qui n'avaient pas été respectés, et tout ça. Lors de sa dernière visite, il a dû déplorer un certain nombre de choses qui n'étaient pas en place. Donc prions que la prorogation de l'état d'urgence permette de renforcer notre dispositif et qu'en interne nous puissions travailler d'abord au sein de l'armée, du dispositif sécuritaire, et que le dispositif sécuritaire puisse prendre également en compte les spécificités de la zone avec les populations.
D'accord. On va s'intéresser à la politique. On parle maintenant du Sénat. Le Sénat qui a fait sa séance inaugurale, c'est-à-dire la session de droit, le jeudi dernier. Il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet. Le journal Le Bilan. Le Bilan est revenu sur le sujet. Le journal écrit « Nomination au Sénat, une démarche politique pour un Togo inclusif et équilibré ». Autre journal, c'est le journal Togo Matin. Togo Matin qui titre à ça une session inaugurale au Sénat. Les jours sont comptés pour le gouvernement de transition. Autre journal, c'est Togo Réveil. Le journal Togo Réveil qui écrit 20 sénateurs nommés par le président fort. Un casting judicieux qui tient compte de l'histoire, des forces politiques et de la parité. Également, le journal Liberté est revenu sur le sujet. Gosson, vous écrivez, Sénat, un spécimen d'opposant pour accompagner Fogna Sindé à rester à vie au pouvoir. Gosson,
oui.
Aujourd'hui, c'est vrai, le Sénat est devenu une réalité, mais vous parlez alors d'un spécimen d'opposant qui accompagne le chef de l'État ou le président de la République Fogna Sindé à rester à vie au pouvoir, c'est bien ça?
Effectivement. Spécimen d'opposant.
Justement, ce mot, déjà quand vous parlez de spécimen, spécimen d'opposant.
Oui, comme ce fut le cas lors des élections, spécimen de
bulletins.
De bulletins, voilà, parce que.
Ça n'a même pas les bulletins.
Un type d'opposant. Voilà. Ceux-là qui ne savent pas dire le vrai. Voilà. Qui, pour des strapontins, préfère fermer les yeux, préfère faire comme si tout va dans le meilleur des mondes. Ceux-là qui pensent plus à la pense plutôt qu'au pays. Voilà, ça te fait sourire un petit peu. Tu sais, Pascal, lors de cette session, je suis obligé d'en parler. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec cette institution. C'était un certain Koudjolou Dogo qui avait présidé la séance.
Le doyen d'âge ?
Pascal.
Le doyen d'âge, j'allais dire.
Quand j'ai écouté le nom, j'ai failli avoir une diarrhée profuse.
Pourquoi ?
En ce sens que j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 56 révolus. J'avais 10 ans quand j'entendais ce nom, Koudjolou Dogo. Alors, ministre du plan et je ne sais quoi, sous et à demain. Je parle des années 1978. Tu n'étais pas né. Didier ne l'était pas.
Plan et aménagement.
Plan et aménagement. Vous étiez, je ne sais pas si ton père avait déjà même connu ta mère. Moi, j'avais 10 ans. Ça veut dire que ça fait 46 ans que le monsieur entend, il était président du conseil d'administration d'une structure qui a été bradée, mais qu'il est revenu aux affaires 46 ans après, Pascal. Supposons, c'est 35 ans qu'il faut pour aller au Sénat. Supposons qu'il ait un fils qui soit venu au monde en 1978. Le fils aura aujourd'hui 46 ans. Et ce fils pourrait être un chômeur, mais son père, à cet âge, serait ou est aux affaires. Ça tombe sous le coup de l'entendement. En ce sens que dans la vie, c'est-à-dire l'enfant naît pour enterrer le père. Mais si le père fait autant de temps au détriment de l'enfant, combien de temps l'enfant va jouir de la vie avant de suivre ce père qui refuse de partir? Parce qu'en fait, il s'agit de refus de partir. Franchement, rien que ce nom m'a fait hérisser les cheveux sur mon crâne.
Bien que vous n'en avez pas.
C'est triste, mais le vin est tiré. Il faut le boire. Et jusqu'à la lit.
D'accord. Oui, Jack, c'est vrai. Liberté parle de spécimen, alors d'opposants, parlant de la nomination de ses opposants, bien sûr, comme sénateur. Et est-ce que vous avez aussi la même impression?
Bon, vous savez, c'est un choix du président de la République. C'est vrai qu'au niveau des hommes, on ne peut pas dire qu'un homme est à la phase de la ménopause. Mais bon, vous savez, ils sont quand même, quoi qu'on dise, c'est nos parents. Et ils sont un peu avancés en âge. Mais quand on parle, par exemple, du Sénat, on sait que c'est des sages qui doivent être au Sénat. Il a parlé tout à l'heure de M. Koudjolou Dogo. C'est que, bon, c'est des personnes âgées. Mais comme ils ont un bagage de sages, je crois qu'ils feront par exemple le poids entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois que tout ce que nous pouvons souhaiter, Pascal, à tous ceux qui ont été élus et nommés, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que c'est un maçon qui est au pied du mur. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes à côté du mur, qui doivent apprécier ce que le maçon est en train de faire. Et comme c'est maintenant que le maçon est en train de mélanger et le sable, et le ciment, et l'eau, pour fabriquer d'abord les palpins, et quand les palpins seront prêts pour que le mur, on puisse démarrer la construction du mur, attendons de voir. Pour le moment, on est en train d'observer pour voir effectivement ce que ces personnalités pourront faire effectivement à l'Assemblée nationale. Tout ce que moi je peux dire, c'est de souhaiter bonne chance à ceux qui ont été élus, souhaiter bonne chance à ceux qui ont été nommés.
D'accord.
Souhaiter toujours qu'ils aient effectivement la santé. Pas, comme on l'a dit, ce n'est pas facile. Ils sont un peu avancés en âge et ça ne serait pas facile pour eux de se réveiller pour aller travailler comme s'ils étaient à la maison avec leur chaise de retraité. Et aller effectivement travailler.
D'accord. Vous parliez entre-temps lors de la ménopause. Et chez les hommes, ça s'appelle l'andropause. Voilà. Et Didier, quelle est l'appréciation que vous faites alors de la composition du Sénat?
Ben, comme Jacques le dit, on observe. On n'a pas tous les éléments au stade actuel pour apprécier, outre l'âge. Très très avancé. Donc, Gossen disait que toi et moi n'étions pas nés quand. et à l'époque même, l'année qu'il donnait là, il serait très très compliqué, même que nos parents connaissent nos mamans. Parce que moi, je suis par exemple le premier de mon papa, donc c'est très compliqué pour
lui. Je le suis aussi.
Donc là, donc, ça veut dire que nos parents ne connaissaient pas nos mamans à l'époque. Donc, c'est très compliqué, mais aujourd'hui, il se trouve que c'est des gens-là qui reviennent aux affaires pour décider pour ton avenir et mon avenir à nous. Hein. C'est des vieux-là qui ont fait toute leur vie, leur jeunesse en 1960-1970. C'est eux qui décident aujourd'hui de notre avenir à nous. Comme je dis, nous n'avons pas tous les éléments. On observe que le chef de l'État a nommé des opposants, a nommé des acteurs de la société civile, a nommé des universitaires, a nommé des gens du pouvoir aussi. On a vu, certains, ils avaient fait élire certains, on va dire, des anciens premiers ministres, on a comme la Mali, et puis l'autre est nommé Kofi Go. C'est des gens qui ont fait l'histoire du pays, qui reviennent maintenant, peut-être, comme on dit, c'est le premier Sénat, pour donner une forme à ce Sénat-là. On essaye de voir, on attend de voir tout ce que cela va donner, notamment qui va être le président. Il y a des noms qui fuitent déjà, c'est toujours les vieux. D'ailleurs, même, ils sont majoritaires là-bas, donc tous ceux qui seront présidents du Sénat doivent être des vieux. Et donc, on va continuer par observer et jusqu'où cette histoire va nous amener, ce Sénat va nous amener, ce qu'il pourra apporter dans l'architecture de la 5e République. Est-ce que cela, naturellement, va apporter dans le quotidien de Togolais que nous sommes? Et une fois que le Sénat sera opérationnel, on sait tout ce qui va suivre. Maintenant, après, le reste du travail, ce sera, par exemple, d'aller finir les chantiers à baie, et de lutter contre la vie chère, de régler les problèmes que nous avons tous les jours, de l'eau, de l'électricité, ici et là. Donc, nous observons aujourd'hui pas d'appréciation, outre que ce que je viens de dire là sur l'affaire de Sénat.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons mettre fin au débat sur ce sujet politique, bien sûr. Et nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne. Et c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 115. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. C'est premier auditeur en ligne. Allô?
Allô. Bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Votre nom, c'est?
C'est Mawena.
Ah, monsieur Mawena.
Depuis quelques années.
D'accord, allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Monsieur Pascal.
Oui.
Je vous demande, quand est-ce que va arrêter la communication du monde?
Pardon, quand est-ce que...
De la comédie, quoi. C'est quand les pays autour de nous, des visages des pays, ça change. Regarde notre groupe. Regarde la vie, tout est sale. Et les vieux, là, vont faire quoi? Les vieux qu'on a nommés, là, ils vont faire quoi pour ce pays? Monsieur Pascal, on s'amuse trop, quoi. Et ça nous fait mal, nous, la population, ça nous fait mal. On a l'impression qu'on ne regarde même pas, on ne calcule même pas, quoi. Je sais pas, ça c'est triste, quoi. Et les dames qu'on nomme pour les postes, là, qu'est-ce qu'elles font pour ce pays, pour les dames, les machines sont brûlées depuis, on n'a même pas construit. Elles sont là à monter leur foulard riche, leur foulard cher, leur chaussure cher, que des faits de mots, rien. C'est que, M. Pascal, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Bonne émission.
D'accord. Merci, M. Mahouna, pour votre intervention. Bonjour, Pascal. Bonjour à tes invités, journalistes, en plateau. Ouvrage public inachevé, quand l'impunité règne à tous les niveaux du pouvoir, quand des marchés publics sont conclus de gré à gré, on ne peut qu'assister à ces genres d'incongruité. Bon boulot de mettre Madame Brigitte, le peuple n'est considéré à aucun niveau de ce pouvoir, leurs conditions de vie sont foulées aux pieds. C'est triste, c'est Maglibé qui nous écoute depuis la Belgique. Allô?
Oui, allô, monsieur Pascal, bonjour.
Bonjour, comment vous allez,
Évangéliste
Senghor?
Ouais, salut même, je salue tout le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Bon, mes chers journalistes, le Togo est devenu un gâteau où tout le monde profite. Je vais encore le réitérer. Le Togo est devenu un gâteau, oubliant que c'est quelqu'un qui a créé ce pays. Son nom, c'est Dieu Tout-Puissant. Au moins, craignons Dieu avant de poser toutes les actes. Pourquoi je voudrais dire ça? J'interpelle tous les Togolais d'applaudir pour cette 5e République. On n'a qu'à applaudir. C'est une bonne chose. Ah, ceux qui sont autour de Fonia Fondé, ils ont cette idée, c'est une bonne chose. Bah, vous avez oublié quelque chose, monsieur le journaliste. Ou, alors, je vous parle, il y a monsieur Netanyahou, bon, excusez-moi pour le nom, est à la justice, hein, en tant que le premier ministre. Voilà. Je crois que les Togolais n'ont qu'à applaudir et rester à voir, si, au moins, avec cette république, la 5e république-là, on va interpeller tous ceux qui ont détruit les biens publics. Même qui compris, bon, je dis, si Netanyahu est interpellé par la justice israélienne, pourquoi pas, si c'est pour Netanyahu qui sera le premier ministre, lui aussi n'a qu'à se préparer pour se tenir à la justice un jour. C'est ce qui est important.
Vous voyez, non? D'accord, merci.
Donc, pour terminer, je voudrais dire à nos journalistes, et moi, je dis à nos juges, les avocats et autres là, le corps judiciaire du Togo, qu'ils n'ont qu'à se préparer. Parce que ce n'est pas le lieu quand même de mettre les petits poissons en prison avec le gel. Mais il faut que vraiment que la justice togolaise interdise la population, c'est-à-dire que ce soit du côté de la population. Je m'arrête ici, que Dieu bénisse le Togo.
D'accord, merci pour votre intervention, Évangéliste Senghor. Bonjour Pascal, bonjour chers journalistes. Bonne émission à vous. Je travaille dans le quartier Baie, non loin de l'église catholique. Et ce mois de mars, ça fait exactement 3 ans que le Golf 1 a cassé tout pour faire la route. La devanture de mon atelier est restée cassée jusqu'à ce jour sans un seul mot des autorités. C'est Georges qui nous écrit. Alors depuis Ségué. Mais c'est pas Golf 1 qui a cassé les choses, non, c'est plutôt les entreprises quand même qui sont à l'exécution alors de ces travaux. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Comment vous allez?
Allô, bonjour.
Oui, je vous écoute.
Oui, ça va aussi.
Oui, ça va aussi. Votre nom c'est... Allô, votre nom c'est...
C'est Monsieur Jean-Paul.
Monsieur Jean-Paul.
Monsieur Jean-Paul.
Oui, vous nous appelez de quel quartier?
Depuis GTA.
GTA?
Oui.
Oui, allez-y.
Oui, je vous appelle depuis... Oui, d'accord. Non, c'est juste pour saluer.
D'accord, merci.
Sur le plateau aussi.
D'accord, merci beaucoup. On va recevoir notre auditeur 90-86-35-35-91-36-63-115. Allô?
La passe, bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, heureusement.
Hein. D'accord, allez-y.
Bon, nous, on va encore appeler ce matin pour vous dire quelque chose. Vous voyez, le président, il est prêt. C'est pour gaspiller l'argent de notre pays, que le Sénat passe ceci par là. Il est prêt. Mais si c'est pour s'occuper véritablement de ce que le Togolais a besoin, il n'est pas prêt pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Et puis dans ça, vos collègues qui sont grossiers, moi je suis plus grossier que vous. Regarde quelqu'un qui a travaillé fini. On dit que quand on part, il faut donner tel montant, un an, à celui-là, il va aller se chercher. Il n'est pas prêt pour ça. Mais ce que on a, nous, ils sont ministres, avant qu'on nous mette au monde, il faut les ramener, dit qu'ils n'ont qu'à venir manger. Lui, il est prêt pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on vous dit. Sinon, vous faites quoi au Togo? Dans toute la sous-région ici. C'est où vous voyez cette affaire. Mais, ça là, jusque-là, lui, il sait qu'il a sa place, il a ceci. Mais vous qui venez débattre, il ne faut pas nous dire que vous êtes grossier. Moi, je suis plus grossier que tout le monde là-bas.
Mais merci Basile, puisqu'il faut s'intéresser au sujet débattu ici au Club de la
Paix. Allô, comment allez-vous?
Bonjour, comment vous allez?
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute.
Je n'ai pas retourné, je vais aller quand même. Monsieur Combaté, j'appelle de Duranaoui. J'aimerais dire merci à Madame Adjamabo pour le travail qu'elle a là-bas. Que Dieu la donne longue vie pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle veut faire pour nos populations. Et mon second point, ça va porter sur les sénateurs. Les sénateurs, je pense que la vie leur donne souvent toujours une seconde chance. Et ils ont eu leur chance dans le passé. Ils n'ont pas pu faire les choses comme il se doit. Mais maintenant, je pense que la nature leur offre encore une deuxième chance. Et nous tous, nous sommes là, nous avons les yeux rivés vers eux. Cette seconde chance que la nature leur offre, s'ils ne le font plus bien, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de pardon et nous tous, nous voyons ce qu'ils ont raté dans le passé. C'est le moment maintenant de le corriger. Et bon, le peuple là, les yeux rivés vers eux.
D'accord. Donc, okay, merci beaucoup. Bonjour Pascal et à vous tous ou à vos confrères en studio avec vous. Dommage que sur 113 députés et 61 sénateurs, Madame l'honorable Brigitte constate des travaux inachevés, surtout à Lomé. Merci et bonne émission. C'est Didier qui nous écoute depuis Vagourcito. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo. Allez-y.
Oui. Quand vous avez tous écouté les éditeurs, ils n'ont pas le cœur dans leur ventre. Hein. Ils ont peur de cette cinquième république. Mais l'histoire est là. L'histoire retiendra. Même dans la Bible, il y a beaucoup de rois qui sont succédés. Et on sait quel roi est favorable dans la Bible. Il y a des mauvais exemples à ne pas prendre. Je ne suis pas sûr que le Togo sera un bon exemple pour les autres pays en se patriant la construction au jour le jour. Et je voulais qu'on revienne un peu sur le 8 mars. Il y a certains termes, je ne sais pas si on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'on dise que égalité de mentalité que de dire égalité de sexe? Les femmes osent, hein, je ne sais pas si c'est osé, demander à leur mari de prendre, d'aller au marché, acheter la sauce, venir préparer le jour-là. Comme quelqu'un l'a dit, c'est festif. C'est l'égalité de mentalité. Que la femme a une mentalité solide comme la mentalité de l'homme. Elle peut conduire l'avion, caterpillar, elle peut fréquenter aller loin. C'est ça qu'on veut montrer à la femme. Qu'avant, la femme n'était même pas scolarisée, qu'elle est faite sous le foyer. Mais elle est prête à tout maintenant. Je pense que si on passe le message comme ça, il n'y aura pas trop d'écart dans les foyers. Bonne émission.
Merci, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour.
C'est la dernière.
Oui, madame Essie.
Oui, justement.
Oui, allez-y.
Je vais parler de l'opposition choisie à l'Assemblée. Ils sont quatre, je crois. Et puis, il faut rappeler vous aussi que l'UFC avait eu 27.
Allô, madame Essie. Allô, madame Essie.
Oui.
Il semble que vous avez approché. Il semble que vous avez approché trop votre lèvre au téléphone.
Ah, au téléphone.
Vous avez une voix saturée.
Oui. Ah oui, excuse-moi. Bon, le régime a choisi quatre opposants à l'Assemblée. Et puis, il y a eu 27 députés de l'UFC à un moment donné. Ils en ont viré 9. J'ai jamais vu dans le monde entier. On dirait que vous oubliez ça aussi, quoi. Il faut en parler, il faut raviver la mémoire des Togolais. Et puis voilà, normalement, ils devraient avoir 90% au moins, mais on leur a octroyé 27. Ils n'ont pu rien faire parce que quand ils votent des lois qui vont nous arranger, c'est bloqué par la majorité, soi-disant et tout. Il y a eu ça. Le 8 mars, et les femmes sont brûlées, elles sont martyrisées, on détruit les marchés, et puis quand elles essaient d'émerger, aller emprunter dans leurs microfinances, les microfinances du régime, et puis pour installer des conteneurs, on va les détruire, maintenant, après, franchement, et maintenant c'est les boutiques, les shops de la plage, et des bébés, qui va leur faire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et maintenant, le président, il est inamovible, il va pas alterner, il refuse l'alternance, pourquoi? Et puis, il nous ramène la 5e République. Il faut qu'il vienne nous expliquer ce qu'il est en train de faire avec la République.
D'accord, merci madame ici pour votre intervention. Nous avons eu beaucoup de réactions également sur notre numéro WhatsApp. Bonjour Pascal et merci pour l'émission. Le Sénat au Togo est une case de retraite pour récompenser les fidèles au prince. Notre problème à Badou, c'est un abattoir qui nous met mal à l'aise. Plus de 20 ans que nous exprimons notre ras-le-bol, mais le maire s'entête et ne prend aucune mesure en notre faveur. Votre confrère Basile a risqué sa vie ici pour les dénonciations sur ce sujet. Je vous interpelle à vous préoccuper des problèmes de l'intérieur du pays, surtout de l'abattoir de Badou. Et bonne journée, c'est Hervé de Badou dans l'odeur de l'abattoir. C'est ce qu'il nous a écrit. Et merci à toi Hervé. Il y a également d'autres, hein, bien sûr. Bonjour Pascal. Juste souhaiter une longue vie à madame Adiamagbo Johnson. Peut-être elle sera le messie pour le Togo. C'est Prince Senaya depuis Nyekonakwe. Et beaucoup de réactions, bien sûr. Nos chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jour. Je vais juste lire cette dernière réaction avant de vous donner la parole. Bonjour Pascal et bonjour le plateau. Pour ceux qui se demandaient le pourquoi l'honorable Adiamagbo siège à l'Assemblée nationale, ils ont leur réponse maintenant. Si les autres députés en faisaient autant, je suis sûr que beaucoup de choses allaient bouger au niveau de la gestion du pays. Bravo à Madame Brigitte Adiamagbo, que les autres opposants prennent de la graine. Merci et bonne journée à vous. C'est Cyril qui nous écoute depuis le Canada. Jacques?
Donc, je voulais revenir un peu par rapport au compatriote qui a appelé depuis Badou et qui vous a écrit plus tôt, qui parlait de l'abattoir de Badou.
C'est Hervé.
Hervé, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je serais vraiment très content qu'il puisse nous expliquer ce qui se passe réellement dans l'abattoir de Badou. Et nous le promettons que nous pourrons rendre fidèlement acquis de droit ce qui se passe au niveau de l'abattoir de Badou pour que les populations soient soulagées. Parce qu'il parlait d'odeur, selon ce que vous avez dit. Donc, s'il peut donner d'un
peu. Il dit que cela dure pratiquement 20 ans de cela.
Bah, d'accord, ok. Donc, on va se renseigner.
Tout à fait.
Et moi, je le promets que si c'est le problème qui perdure là-bas, nous allons remonter l'information pour que solution soit trouvée à cette situation. Et dire une fois encore à nos compatriotes, Pascal, que c'est vrai que les gens s'énervent, les gens se fâchent et la tension monte. Et calmons-nous, il faut que nous puissions maîtriser nos nerfs, parce que ce que nous avons en commun, Pascal, la plus grande richesse que nous avons, c'est la santé. Donc je voudrais demander à nos compatriotes d'être un peu patients. C'est difficile, mais vous savez, le plus beau, le plus joyeux pour nous, c'est que nous soyons en vie, que nous puissions nous retrouver. Je suis souvent content de te voir les lundis, voir mon ami personnel, voir également Didier les lundis.
Ce plaisir est toujours partagé.
Justement, donc je demande aux compatriotes, calmez-vous, calmez vos nerfs, et ne soyez pas tout le temps tendus, parce qu'actuellement, vous savez, la tension peut vous tuer à tout moment. Donc, restons sereins. Et c'est notre pays, c'est ce que nous avons en commun, et prions pour son bonheur et son développement.
D'accord. Didier ?
On a écouté les auditeurs, on voit à peu près l'intérêt que les gens ont pour le sujet de tous les jours, les problèmes de notre société. On a vu par exemple les travaux qu'on a évoqués, et ça a intéressé beaucoup de personnes. On va dire là que les autorités, on va exhorter les autorités surtout qu'il y ait une réunion par rapport aux inondations. Qu'on ait cette zone, les travaux devraient permettre de régler des problèmes d'inondation. Il faut justement que quelque chose soit fait avant que les premières pluies ne se déclenchent pour éviter que le drame ne continue. Il y a un auditeur également qui nous suit et qui a posé également la question sur qui me demandait si on avait des nouvelles des autres nominations que le chef de l'État devrait faire pour l'opérationnalisation des autres institutions de la République, parlant notamment de l'institution qui nous concerne, nous, la HAC. Donc, il y a de nos confrères qu'on connaissait, qui ont été élus à l'Assemblée nationale depuis plus d'un an déjà, qui sont à la maison depuis tout ce temps. Ça fait très, très longtemps. Il restait que la nomination de trois.
De trois.
Oui. Trois personnes par le chef de l'État pour que la HAC puisse être renouvelée. Et bon, on peut faire déjà cela d'une pierre deux coups. Puisqu'on rentre dans une nouvelle république avec ça, on a déjà des personnes qui sont élues. Il faut que le chef de l'État continue dans la logique de nomination. Pourquoi pas nous surprendre avec les trois autres nominations pour que cette autre institution-là, qui prend un autre nom sous la Ve République, puisse être une réalité dans les jours à venir, puisque le gouvernement de la transition, qui est chargé de mettre en place les institutions, est en train de voir ses jours compter pour très prochainement. Donc, exhortation peut-être pour les indics du chef de l'État qui sont à l'écoute. Voilà, les gens veulent savoir également à ce sujet.
D'accord, merci Didier. Oui, Gosson.
Didier, si Bambara, j'ai le sourire. C'est qui tu appelles les indics du chef de l'État? Parce que moi, je suis son conseiller virtuel, hein. Ah bon. Je suis aussi un de ces indiques.
Bah, naturellement, si tu peux porter le sujet là-bas.
Ouais, ça fait plaisir. C'est juste pour rebondir par rapport à un auditeur qui disait que dans toute cette assemblée, Madame Brigitte Adjamagbo est la seule qui a eu le courage de relever les incongruités sur la construction des routes. C'est en cela que je me conforte dans le fait que ce Sénat ne va rien apporter de plus que l'Assemblée qui existe déjà. Parce que si, par rapport à l'effectif, à l'Assemblée, elle est la seule, je vois mal, ne serait-ce que parmi les 20 nommés, un seul, ce ne serait quand même pas Koudjolou Dogo, encore moins que Sénat Alipuy, qui viendra dire ou alors relever qu'il est allé ici. Voilà ce qu'il a constaté et qui aura le courage de le dire publiquement. Il saura que à la fin de ce Sénat, il ne sera plus reconduit.
D'accord.
Malheureusement.
Mais merci beaucoup, Gosson Ketomania, pardon. Et vous êtes journaliste au journal Liberté. Merci d'être passé alors dans cette émission. Et merci à Didier Assogba, qui est directeur de publication du journal en ligne Togo Breaking News .tg. Et merci à Jacques Dzakouti, qui est analyste politique. Merci à
vous tous de nous avoir suivis. Vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat, merci à vous. Michel Toméga, merci d'avoir assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.